Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, ou l'agriculture racontée par ceux qui la font. Pour une fois, c'est l'intervieweur qui reçoit. Florent, paysan sans terre, est venu boire le café à la maison. Micro ouvert, posé sur la table de la cuisine. Donc bonjour Florent, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Bonjour Franck, donc je m'appelle Florent Pancher, j'ai 41 ans, j'habite dans le sud Aveyron depuis 2008 maintenant. Je suis sur un hameau qui s'appelle Vispince, dans lequel je suis habitant depuis maintenant 2010 et sur lequel j'ai été agriculteur pendant 8 ans jusqu'en 2018.
Okay.
J'ai arrêté l'exploitation de la ferme en 2018, cédé l'activité et depuis j'ai essayé la formation. J'ai travaillé un an au centre de formation d'apprentis de la Cazotte. Je me suis occupé d'une formation de technicien conseil en agriculture biologique. Et à la fin de ce contrat, je me suis rendu compte que l'agriculture me manquait trop. Et voilà, je suis en recherche d'une exploitation agricole depuis un peu plus d'un an. Et je m'occupe en étant salarié agricole dans différentes exploitations depuis cette date.
Ça fait un an que tu cherches une exploitation. C'est difficile à trouver ?
Ça fait à peu près un an, je crois que donc on est en novembre 2020, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Effectivement, j'ai pris la décision de me réinstaller en mai 2019. Donc effectivement, trouver une exploitation et se réinstaller, c'est une quête de longue haleine. Il y a plusieurs difficultés, donc déjà mon projet et le fait que je veuille faire une activité qui est assez atypique dans la région, vu que j'ai envie de traire non pas des brebis mais des chèvres, ce qui pour le sud Aveyron est un petit peu exotique
voire hérétique.
Voilà, ensuite que vu mes expériences d'association en agriculture, j'aimerais m'installer seul. Et que donc, voilà, je ne cherche pas une association, mais une reprise d'exploitation en individuel. Voilà, et que y a plusieurs obstacles. Bon, des obstacles financiers d'abord, bien évidemment. L'achat d'une ferme avec des terres, des bâtiments, une maison, du matériel, c'est difficilement envisageable. Voilà, j'ai 41 ans, pas d'enfants et j'ai pas vraiment envie de travailler jusqu'à mes 67 ans juste pour me payer une ferme et d'être content le jour de la retraite d'être propriétaire d'une ferme. C'est pas vraiment ma démarche. Et que du coup, je suis plutôt à la recherche d'une ferme en location, trouver quelqu'un qui ait une ferme de taille moyenne pour la région, avec des bâtiments adaptés au type de production que je veux faire. Et voilà. Et du coup, ce type de ferme, il en reste peu dans la région. Et en plus, arrivant avec un projet en caprin laitier, ça ne correspond pas forcément au type de production en place sur les fermes que je repère qui seraient libres dans les années qui viennent, ni à la volonté des propriétaires qui est souvent que l'activité au Valais continue.
Et pourquoi, qu'est-ce que c'est qui t'attire, toi, l'élevage caprin, pourquoi ?
Alors, moi, je suis pas du tout issu du milieu agricole. J'ai fait des études en biologie végétale. J'ai été à la fac. J'ai fait après une école d'ingénieur agricole, mais plus dans des optiques de travailler comme agent de développement sur du développement local, développement territorial, développement agricole.
Pour travailler auprès des collectivités territoriales, un truc comme ça.
Voilà, soit être conseiller en chambre d'agriculture, soit être agent de développement dans des communautés de communes, des conseils régionaux. petit à petit, je me suis rendu compte en fait que l'agriculture m'intéressait, mais que voilà, j'étais quand même un peu en porte-à-faux avec les orientations générales de l'agriculture française qui vont voilà, vers des productions de plus en plus spécialisées, des exploitations de plus en plus grandes, de plus en plus mécanisées. Et voilà. Et j'ai découvert la chèvre à l'occasion d'un stage ouvrier dans le cadre de mes études. Je me suis retrouvé en Ardèche, dans les collines, à camper sous des châtaigniers, à courir après des chèvres cornues, avec des cochons qui buvaient le petit lait de la fromagerie. Oh. Et je me suis dit que c'était quand même assez sympathique l'élevage. Et voilà, donc j'ai travaillé à droite à gauche pendant quelques années. Et puis rapidement, je me suis dit que j'avais envie de m'installer et que la chèvre, c'était un animal qui m'avait plu, voilà, par son comportement, le côté attachant, très individuel de l'animal. C'est un animal qui est compliqué à conduire en troupeau, parce que chaque chèvre est un cas particulier, a son caractère, son fonctionnement. Donc c'est un animal qui est relativement difficile à élever en troupeau, mais en même temps, voilà, qui est un animal attachant, sympa, blagueur. Voilà, là j'ai vraiment développé
la personnalité de la chèvre. D'accord.
Voilà, et puis j'ai continué du coup à faire des stages, travailler en chèvre, à traire, à faire de la transformation fromagère.
Et donc là vite fait, tu nous as rappelé un petit peu ton cursus. Tu le disais tout à l'heure, donc tu étais agriculteur à Vispens. Et vous faisiez de la vache.
C'est ça. Donc on a trouvé ce lieu et on l'a acheté en 2010.
Vous étiez combien sur le projet au départ ?
Alors on était jusqu'à 30 personnes, oui. Et puis voilà, au fil des week-ends de travail, à définir ce que chacun voulait, ce qui était possible, on s'est retrouvé à un noyau d'une dizaine de personnes. Et voilà. Et du coup, le projet, c'était d'acheter d'une part, via une société civile à statut coopératif, un hameau, faire un habitat groupé écologique, avec chacun son logement, mais en mutualisant la propriété du sol, des espaces collectifs, mutualiser l'eau, l'électricité, et en parallèle, reprendre une ferme à plusieurs, avec un mode d'exploitation collectif. Donc quand on a trouvé cette ferme Vispens sur Sainte-Afrique, on était donc, comme je vous ai dit, 10 à monter la SCI pour acheter le côté hameau, et on a fait appel à une structure qui s'appelle Terre de Liens pour acheter la terre, et ensuite on était 2 en fait à s'être installés en tant qu'agriculteurs fermiers sur les bâtiments et les terres agricoles de cette ferme.
Renan et toi?
Renan et moi. Du coup, cette ferme, c'était une ferme, je dirais, traditionnelle, une ferme en élevage bovin allaitant, assez grosse, assez intensive, qui pratiquait aussi beaucoup d'engraissement d'agneaux. Et donc, on a repris cette ferme, on l'a convertie en agriculture biologique, on a repris une partie du troupeau bovin-viande, des vaches au brac, et on a petit à petit développé un réseau de vente directe de viande bovine en caissette. En gros, voilà, on élevait jusqu'à 40 vaches avec 2 taureaux, et on vendait des colis de viande bovine, soit du veau, soit du jeune bovin, soit de la vache.
Et c'est à la suite de cette expérience que tu t'es dit, je veux toujours faire agriculteur, mais individuellement. Plus dans le cadre collectif, quoi.
Voilà, et en fait, les premières années, donc on était dans un espèce de projet assez énorme, où il y avait à la fois le projet d'habitat développé. Donc sur le hameau, quand on est arrivé, il n'y avait que 2 logements, et on était 7 ou 8 familles. Donc voilà, il fallait construire, il fallait aménager. Et de l'autre côté, voilà, sur la ferme, il y avait tout l'aménagement des bâtiments, à la façon dont on voulait travailler, plus moi qui avais ce projet caprin à développer, donc construction d'une fromagerie, construction d'une chèvrerie.
Et ça s'est fait ça, la fromagerie, la chèvrerie ?
il fallait mettre la ferme aux normes, c'est-à-dire voilà, faire en sorte qu'il y ait plus de lisier, diminuer le nombre d'animaux, changer les pratiques agricoles. Donc tout ça, ça allait aussi avec notre volonté de convertir la ferme à l'agriculture biologique, de diminuer le troupeau, de faire de la vente directe et voilà, du coup d'augmenter la valeur ajoutée sur la ferme en ayant moins d'animaux. Donc toutes les pratiques agricoles qui était nécessaire pour faire baisser ces taux de nitrate. De toute façon, c'était notre volonté, on les a mises en place. Mais voilà, l'hydrogéologue nous avait bien dit, là, vous êtes parti pour quelques dizaines d'années avant de revenir à un taux de nitrate naturel qui doit être entre 7 et 10 mg par litre sur ce type de terrain. Donc, on a fait faire une étude par Veolia pour installer une station de dénitratation. Sauf que voilà, Veolia Sud-Ouest nous a dit, bah, nous on ne sait pas faire, donc ils ont fait appel à Veolia Bretagne, comme par hasard, qui voilà, nous a dit que oui, oui, ça pouvait se faire, on traitait 5000 litres d'eau par jour, sauf que voilà, c'était une usine à gaz avec des coûts de fonctionnement assez importants en termes d'énergie, et c'est des technologies à base de résine échangeuse d'ions, où en gros, pour un litre traité, on produisait 2 ou 3 litres d'eau de mer. Une espèce de saumure chargée en ions toxiques.
Que tu ne sais pas quoi en faire après.
Et que du coup, pour traiter ces eaux de lavage de nos filtres, il fallait faire un système de lagunage de plusieurs centaines de mètres carrés pour que l'eau s'évapore, enfin des espèces de marais salants.
D'accord.
Voilà, ce qui, sur une ferme posée au bord d'un causse et au-dessus des pentes, voilà, c'était absolument inenvisageable.
Oui, surtout si tu étais en bio et tout. Enfin,
c'est... enfin voilà, c'était une usine à gaz. Et en gros, voilà, de 2010 à 2013, on a cherché des solutions techniques pour potabiliser cette eau. Et on a fini par aller voir la mairie de Sainte-Afrique en disant, bah, écoutez, là, on a un souci, il nous faut l'eau de ville. Et du coup, voilà, il a fallu 2 ans de négociations avec la commune, de monter voilà, un financement avec Terre de Liens, donc, qui nous a aussi bien aidés pour obtenir que les 3 km de réseau qui manquaient soient faits pour qu'on ait une adduction d'eau de ville. Okay. Donc l'eau de ville est arrivée en décembre 2015 sur la ferme et le hameau.
Et c'est là que t'es parti.
En fait, voilà. Mon associé est parti, en gros, en février 2016. Enfin, voilà, a décidé de quitter la ferme. Donc, c'est l'époque-là.
T'as continué tout seul pendant un moment ?
Ben, j'ai continué la ferme, du coup, tout seul. J'avais un apprenti. J'ai essayé de retrouver des gens pour, venir se réinstaller sur la ferme, reprendre l'activité bovin-viande, moi, pouvoir développer cette activité caprine. Et en fait, voilà, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que, voilà, c'était... Bah, c'était trop, ça voilà, tout ce côté collectif, que ça ne me convenait pas forcément, moi, voilà, dans mes fonctionnements, le travail en collectif. Et ben voilà, c'est de l'organisation, c'est des réunions, c'est du compromis sur les objectifs, les façons de travailler, la façon de gérer la ferme, les animaux. Et que, bah voilà, c'est un petit peu, pour moi en tout cas, ça a été compliqué, compliqué au quotidien. Que voilà, quand j'ai trouvé des personnes désireuses de se réinstaller sur la ferme, voilà, je leur ai dit au bout d'un an à peu près que de montage d'un projet, que moi en fait, voilà, j'allais être cédant, que s'ils voulaient reprendre la ferme, ils pouvaient, mais que voilà, moi je désirais arrêter.
Donc Florent cherche une ferme, hein, je le dis pour tout le monde.
Le télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, c'est ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. J'aurais des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. J'aurais des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, c'est ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Coin de soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol, j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, c'est ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, c'est ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Personne qui, comme tu le décris, n'est pas issue du milieu agricole, qui veut s'installer, est-ce que tu aurais un bon conseil, toi qui en es passé par là, à lui donner? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Est-ce qu'il y a des choses par lesquelles il va falloir obligatoirement passer? Je ne sais pas. Parce que de toute façon, c'est le genre de métier par excellence où tant que tu n'as pas les mains dedans, la théorie est
très la théorie, c'est bien beau,
très limitée, mais quoi.
Ouais. Que la pratique... Et que voilà, moi, arrivant sur cette ferme, il y a 10 ans, j'avais beau être ingénieur agricole, la première fois qu'il a fallu veiller une vache, souder une barre de fer, ou voilà, je me suis retrouvé un petit peu désemparé.
Il faut que j'apprenne encore.
Et que c'est un métier, voilà, où en plus, ce qui est bien, c'est qu'on apprend tous les jours. On apprend au contact des bêtes, on apprend... voilà, avec un métier qui est totalement en lien avec le temps, le milieu. C'est pas un métier, voilà, où on apprend une façon de faire et on peut la reproduire à l'infini.
Ouais. Voilà, Saint-Afrique, quand même, les gens sont assez sensibles au local, au bio.
Oui, ben nous, du coup, donc on est parti de rien en termes de vente directe et au bout de 5 ans, on commercialisait quasiment une trentaine de veaux par an en local. On commercialisait la moitié des veaux sur le sud Aveyron et on allait quand même sur Montpellier, Nîmes. Mon ancien associé et sa compagne avaient vécu 10 ans dans l'Hérault avant de s'installer et avaient tout un réseau amical professionnel. Entre voilà, Montpellier, la campagne gardoise, et les gens là-bas aussi sont voilà, friands de produits aveyronnais, de produits, voilà, de, je pense qu'on de peut dire qu'ils étaient quand même de qualité, un prix abordable. Et... Ce qui est aussi le cas sur le sud Aveyron, sachant que voilà, sur le sud Aveyron n'a pas une densité de population comparable avec le moindre village gardois ou la grande banlieue de Montpellier, où effectivement... Sûr. Là-bas, c'est facile, quoi. Ici, mais oui, on a eu un très bon accueil pour nos produits. On vendait donc un réseau de clients qu'on s'est fait par le bouche à oreille. On était aussi rentré dans la boutique de producteurs qui s'était montée à l'époque sur Saint-Afrique et qui existe toujours dans la rue du Marché. On livrait aussi voilà, la Biocop de Saint-Afrique, le magasin L'Épicerie d'El País qui aussi essaye de s'approvisionner essentiellement en produits locaux. On travaillait aussi avec quelques restaurants comme la Table du Lieu-dit.
D'accord. Et donc j'imagine que si tu reprenais une ferme, une activité, que tu arrivais à faire ton fromage de chèvre, c'est bien, tu as déjà tous ces contacts-là. Tu pourrais écouler ta marchandise et donc assez rapidement rentrer des sous pour continuer à faire tourner la machine.
Oui, sauf que j'ai un petit peu évolué dans mes projets agricoles depuis.
Ah d'accord.
Et que depuis, voilà, j'ai goûté à la vente directe. Donc c'est vrai que c'est un côté très valorisant d'avoir le consommateur final... qui vient et qui revient et qui te remercie quand tu le contactes en disant j'ai des colis, est-ce que ça vous intéresse, et que les gens vous remercient d'avoir pensé à eux. C'est vrai que c'est un côté très valorisant, très plaisant. Voilà, on sait pourquoi on s'est levé, on s'est gelé, on a glissé dans le lisier, on s'est fait taper par une vache.
C'est que ça fait visiblement... la vie d'agriculteur.
C'est une sacrée vie. Bon, on se lève, tout peut arriver. Chaque jour, c'est une nouvelle aventure. Mais voilà, non, c'est très valorisant. Après, là où j'ai évolué, voilà, c'est que aussi, voulant m'installer et travailler seul, je me rends bien compte que produire, transformer et vendre tout seul, et bien, ça reste quand même très compliqué. Voilà,
les journées ne font que 24 heures
d'engagement. Ouais. Et qu'une journée ne fait que 24 heures, donc on peut travailler 24 heures sur 24.
Pourquoi
mais...
pas?
Ça se peut. Bon, c'est pas forcément mon objectif. Surtout, il y a des moments où il faudrait à la fois s'occuper du troupeau, à la fois être à la fromagerie et à la fois vendre. Et que, voilà, ça, c'est compliqué. Maintenant, j'aimerais bien, en fait, avoir un troupeau d'une centaine de chèvres maximum, produire du lait et, voilà, trouver une structure qui collecte le lait sur le modèle de ce qui se passe voilà, avec le... Donc, j'ai trouvé une structure intéressée pour collecter du lait de chèvre dans le sud Aveyron. C'est un groupement d'intérêt économique qui regroupe une soixantaine de producteurs de chèvres. Et il y a déjà deux fermes sur Millau et au pied du Larzac qui sont collectées par cette structure.
Okay. Donc, tu pourrais t'intégrer dans la tournée, quoi.
Donc, voilà, j'ai déjà contacté il y a un an cette structure. Ils ont une tournée dans le coin. Ils cherchent du lait bio local. Il manque des millions de litres de lait de chèvre bio en France. C'est-à-dire que les fromageries qui fournissent les Biocop, les réseaux de magasins spécialisés bio et les grandes surfaces aimerait faire du lait plus local, mais on importe chaque année en France, je crois, 2 ou 3 millions de litres de lait de chèvre d'Espagne et de Hollande.
D'accord. Et tu penses que juste la production de lait suffirait à tirer des revenus raisonnables ?
Le lait de chèvre est relativement bien payé, et donc cette structure, ce GIE, a un partenariat privilégié avec une grosse fromagerie qui a elle-même un partenariat avec le réseau des Biocoop. Voilà, c'est, il y a un marché du fromage de chèvre bio, il y a un marché du fromage de chèvre bio avec du lait collecté en France, et chaque acteur de la filière, voilà, est prêt à faire un effort, entre guillemets, à ne pas rentrer dans des guerres des prix, et à payer convenablement le lait pour que bah, voilà, les éleveurs puissent en vivre. Mmh. Et voilà, et moi, dans mes prévisionnels économiques, effectivement, tirer un revenu avec une centaine de chèvres menées de façon pas trop extensive ni trop intensive, on peut avoir voilà, une production et un revenu qui permettent à la fois de vivre, de payer un peu d'emprunt, un peu d'investissement.
Mais les agriculteurs devraient se précipiter pour te proposer quelque chose, alors, puisque ton projet est viable, de tout ce que tu en comptes.
Voilà,
et leurs fermes ne vont pas tomber en désuétude ou en ruine.
Voilà, sauf que comme je vous expliquais tout à l'heure, bon, il y a déjà voilà, cette chance du Sud Aveyron, entre guillemets, d'avoir filière Roquefort, qui est une filière qui permet aux agriculteurs de vivre sur des fermes de taille raisonnable, avec encore une agriculture familiale, et que du coup, contrairement à beaucoup de zones d'élevage, il n'y a pas de crise de l'élevage dans l'Aveyron et le sud du Massif central.
Mais tu me permets donc de faire la transition sur la question suivante, qui est ma grande question philosophique. Je pose la même question à tout le monde. Comment tu vois l'agriculture dans les années à venir, dans les 10-20 ans? Beaucoup me disent, mais il y a les grands qui vont continuer à grandir et les petits qui vont rester tout petits. Soit il y aura un développement des très grandes structures, soit il y aura une accumulation des petits exploitants. Et entre les deux, ce qu'il y avait entre les deux, en tous les cas, semble disparaître. Est-ce que tu fais ce constat-là ?
C'est un peu un constat global général, qu'on peut faire, qu'effectivement, le risque, c'est un peu qu'il y ait deux trajectoires en fait, de l'agriculture française. Une partie de l'agriculture qui parte clairement vers de l'agro-industrie, c'est-à-dire des exploitations très spécialisées, soit en grande culture, soit en élevage, avec des filières très intégrées.
Très mécanisées, même électroniques.
Voilà, l'utilisation de la robotique, limiter au maximum les coûts personnels, des investissements éventuellement qui viennent de milieux hors agricoles, avec ce qu'on voit, les phénomènes d'achat massif de terres par des investisseurs, et des filières très intégrées dans la mondialisation, où l'idée, ça va être de concurrencer le maïs américain, de concurrencer
le soja brésilien,
le lait canadien, le lait ou la viande canadienne, et voilà. Et que d'un autre côté, il y ait aussi une persistance d'une agriculture de niche qui produise des produits de très haute qualité, mais à des coûts absolument inabordables pour la grande majorité des gens. Et que il y ait vraiment cette agriculture à deux vitesses. Une qui produit une matière première bas de gamme pour l'industrie agroalimentaire, et une autre qui soit sur des marchés de niche, des petits marchés, des petites boutiques de centre-ville où les gens avec du pouvoir d'achat pourront continuer à manger des bons produits.
Est-ce que tu verrais quelque chose à rajouter, toi, sur ta façon de voir le métier, ton expérience, l'agriculture en général?
Ouais, c'est pas facile ta question. Je voulais nuancer le côté,
si tu voulais rajouter quelque chose.
Oui, non, mais je voulais faire mon politicien conclure.
Non, est-ce que voilà. C'est pas évident. Mais bon, en tous les cas, l'agriculture, c'est un métier qui existera toujours. Il n'y a que les pratiques qui changent.
Les pratiques changent, que les attentes de la société changent, et que, je voulais aussi dire que le renouvellement des générations qui s'est toujours fait en agriculture en famille, ça c'est une dynamique qui est en train d'être cassée, et qu'en gros en France, pour 4 exploitations qui cessent leur activité, il y en a une qui est reprise, c'est à peu près. Et que dans cette activité qui est reprise, on doit être à peu près à la moitié en cadre familial et l'autre moitié hors cadre familial. Et que je pense que c'est aussi une chance pour l'agriculture et son avenir qu'il y ait des gens qui ne soient pas issus non plus du milieu agricole, qui viennent se confronter à la réalité, qui n'est pas si simple. C'est pas si simple de dire il faut arrêter les engrais, il faut arrêter les antibiotiques et il faut tous faire de la vente directe, ça c'est sûr. Et que plus, je pense, il y aura de gens effectivement de milieu non agricole qui s'investiront dans ce milieu, plus ça aidera aussi ce milieu à évoluer, à comprendre les attentes de la société, et aussi à ce que l'agriculture se batte pour éviter ce dont on parlait, ce scénario à deux niveaux, une agro-industrie et une micro-agriculture haut de gamme. Et que dans les 10 ans, il y a un enjeu énorme à installer. En gros, il faudra installer, si on voulait retrouver une agriculture sur des fermes de taille moyenne, des fermes diversifiées, de polyculture élevage, pratiquant l'agriculture biologique ou une agriculture utilisant le moins d'intrants chimiques possible, la plus raisonnée, en gardant un maillage territorial, de laiteries, de petits abattoirs, de petits transformateurs. C'est ça, il faudrait installer 30 000 personnes par an dans les 10 ans qui viennent, 30 ou 40 000 personnes par an.
Ah oui. Et c'est peut-être pour ça que donc il y a des grands groupes, des investisseurs qui investissent aujourd'hui dans l'agriculture. C'est parce que peut-être ils ont calculé aussi qu'il y allait avoir manque de bras, plus personne pour reprendre les terres et qu'ils allaient pouvoir se les accaparer, eux, vu que ça n'allait pas être transmis de paysan à paysan. Il y a un coup d'argent à faire, beaucoup d'argent à faire.
Il y a beaucoup d'argent et aussi il y a certains grands groupes agroalimentaires aussi qui commencent à se poser des questions, qui va leur fournir leur matière première. Parce que dans le lait de vache, c'est flagrant. Avant, une exploitation en lait de vache, c'était 30 ou 40 vaches, 2 actifs. Maintenant, c'est 50 vaches par robot de traite et quand on s'installe, c'est plutôt un actif avec 3 robots de traite et 150 vaches. Sauf que c'est un capital énorme à mobiliser et que
les grands groupes sont capables de le faire, d'investir.
Et certains groupes en sont même venus à acheter des terres, des bâtiments et à salarier des gens pour produire de la matière première à bas coût.
Donc ça se trouve, des gens comme Nestlé, Carrefour pourraient devenir des propriétaires terriens pour remplir leur rayon, quoi.
Et s'ils se rendent compte à un moment qu'effectivement il y a un risque qu'ils aient plus de matière première, peut-être que c'est eux qui vont investir.
Mais il faut que tu fasses ça, Florent. Tu vas voir Nestlé, tu leur dis écoute, moi je cherche une terre, je fais ce que tu veux demander et attends. Florent, agriculteur en recherche de ferme.
Paysan sans terre,
oui. Eh bien, merci beaucoup.
Encore merci à Florent, en espérant que sa situation se débloque prochainement. Parole Rurale est un programme de Radio Centrafrique, accessible sur son site internet. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.